En mai 2019, je suis partie à Berlin, dans les archives de Wilhelm Flusser. Anthony m'avait suggéré l'étude du vampire Ototis. C'était là certainement un prétexte pour me faire aimer Flusser. Et effectivement, les archives m'ont donné l'amour de la pensée et des essais de Flusser. Il faut s'imaginer ce travail de fouille, à la recherche d'un texte inédit, qui donnerait de nouveaux éclairages sur le vampire, ou même pour la communauté des Flusser Studies. La pensée de Wilhelm Flusser est tentaculaire. Ce que j'en ai ressorti est plutôt de l'ordre du trouble. On dit que le vampire Ototis est un ouvrage de fiction philosophique, et c'est vrai. J'ai pour ma part eu la sensation que le compagnon octopode servait à Flusser à décrire un monde possible, où sa vision de l'art, de la science, des technologies, des appareils, prenait une tournure tout autre. J'ai aussi eu l'impression qu'il avait réussi le tour de force de donner un imaginaire du savoir qui serait différent. Quand on y réfléchit, comment étudier le poulpe? Faut-il le ranger bien gentiment sur l'arbre de l'évolution? Ou ne faudrait-il pas plutôt penser en poulpe? Au fond, Flusser nous amène à penser avec le vampire Ototis. Qu'est-il possible de penser avec lui? Ce point de vue de l'altérité, souvent attribué à la femme ou au robot, est ici celui d'un animal à l'époque méconnu. Pour autant, la dialectique dans la pensée de Flusser n'est pas si tranchée. Il n'y a pas « soi » vs « l'autre ». L'autre est plutôt notre miroir, et ce trouble m'habite depuis. Et si nous étudions la biologie en pensant avec et depuis les organismes biologiques, depuis leur être au monde, et si nous pensions l'écologie non pas comme une cartographie de la Terre, mais comme l'addition de multiples expériences diverses, complémentaires, hétérogènes, vécues depuis un point de vue particulier. Je ne sais pas vraiment quoi en faire, mais je sais que le vampire Ototis et Donna Haraway dialoguent ensemble et veulent dépasser l'idée d'une science omnisciente, du point de vue de nulle part, du point de vue de Dieu. Une science puissante qui réduirait le vivant à un programme. Je sais aussi que pour Flusser, le programme n'est pas simplement informatique ou génétique, mais c'est une condition de notre monde. Nous vivons parmi les programmes, et cette vie ne doit pas nous devenir impossible. Voilà le trouble, rien n'est clair. Et nous habitons, nous aussi, un épais nuage de plancton. Il ne faut pas, là, céder à l'anthropocentrisme ou à la volonté d'une explication de la vie. Il ne faudrait pas, vois-tu, que nous tentions de donner un sens à tout ça. Cela n'a pas de sens. Seule la contingence arrive, seul ce que nous n'avions pas prévu est réel. Quand on se cogne, dirait un autre. Wilhelm Flusser a été philosophe, écrivain, journaliste, pionnier de la théorie des médias. Né à Prague dans une famille juive, il émigre vers le Brésil où il deviendra professeur de philosophie et de la communication. Également considéré comme artiste, il aura vécu toute sa vie en exil. Dans cet exil, tout est inhabituel, inhabitable, tout n'est qu'information. Dans cet exil, il s'agit de créer ou périr. Voilà ce que nous dit Flusser dans un joli texte, Exil et créativité, que j'ai trouvé aux archives. Dans cet éloge de l'exil, Flusser revient sur sa souffrance. Souffrance selon lui nécessaire à la création. Pour Flusser, quand on s'éloigne de la douceur des habitudes, quand la couverture des habitudes est violemment retirée, on découvre. Tout devient montrable, monstrueux. Nous en savons quelque chose, nous qui sommes depuis plus de 2 mois confinés dans nos intimités, que nous ne connaissions plus. Nous en savons quelque chose, nous qui voyons avec une clarté brutale tout devenir si évident, si visible, si monstrueux. Nos non-choix politiques, notre lâcheté, la surresponsabilisation individuelle, la perte du collectif et tant d'autres choses. Voilà ce que fait l'exil, habité en monstre octopodal. Flusser, dans le vampire Ototis, nous plonge dans cette réalité de l'exil, réalité qui s'étendra bientôt à une grande partie de l'humanité. Nous serons exilés de nos terres devenues inhabitables, et des terres inhabituelles devront être habitées à nouveau, par du nouveau et par de la création. La créativité oblige à l'exil. Artistes, designers, philosophes, scientifiques et tant d'autres, allons chercher cet ailleurs. Nous nous mettons en quête de cet exil. Chaque chose devient nouvelle, perceptible d'une manière inédite. Mais nous savons aussi que nous vivons dans une époque rapide. Tout change constamment. Ainsi que nous commençons par muter, nous aussi rapidement, à nous habituer à l'inhabituable, à l'inhabitable. Il nous faut rester des exilés. Dans ces archives, des grands classeurs en carton épais noir rassemblent les essais écrits en anglais, en français, en allemand, en tchèque et en portugais. Ces textes sont rassemblés selon un code. Et pour naviguer dans la pensée de Flusser, pour étudier le vampire, j'ai exploré ces codes. Dialogue, create, tech, imat, phenom, future, and for, inters, evolute, nature. Si l'on dessine la cosmologie du vampire, un diagramme liant ces différents termes nous apparaîtrait, comme une cartographie venant des abysses, et elle viendrait nous glisser au creux de l'oreille des idées insidieuses d'un rapport au vivant, à la connaissance et au programme tellement différents. Le diagramme, il faudrait l'imaginer en 3D et évoluant dans le temps. Il se jouerait de nos concepts trop étroits, de notre rigide armoire où nous avons épinglé et classé les catégories de mère nature. Dans les archives qui se trouvent dans l'Université des Arts de Berlin, des essais publiés ou sous forme de tapuscrits, des notes de cours et de conférences, des livres parfois jamais publiés ni même traduits. Ses agendas, sa correspondance, sa machine à écrire, ses photographies, sa bibliothèque de voyage. Tout ça. Tout ça est là. Et j'ai la sensation de pouvoir manipuler la pensée d'un personnage qui ne considérait pas de sujet trivial pour la pensée. De la vache à la prairie, de la théorie des médias, le design, la photographie, le bioart, les gestes. La pensée de Flusser fonctionne comme des couches d'un programme. Une première surface en apparence simple offre une image saisissable de la pensée. Dans les autres strates apparaissent d'autres codes, d'autres lectures qui surgissent, d'autres informations qui codent pour une pensée en mouvement. Geste de l'enfouissement. Dans mon geste de chercher, la réalité prend de l'épaisseur. Elle s'empile en feuillets de tapuscrits. Elle s'empile en lettres et photographies personnelles. Le vampire est là, parmi nous. Il n'est pas monstrueux, ne me fait pas peur. Dans la création radiophonique que l'on vient d'entendre, le poulpe des abysses peut être perçu comme un appareil, nous permettant de naviguer et de filtrer notre monde de données, qui devient un monde intersubjectif et immatériel, à l'image de la pluie de plancton que le vampire habite. Le mouvement inverse est également possible. Comment la pensée des programmes de Flusser, incarnée dans l'être au monde, les gestes, celui du vampire Otis, peut-il nous servir de phare? Un phare bioluminescent dans le monde des vivants que nous traversons aujourd'hui. Moment du vivant, car il faut bien remarquer l'instant étrange dans lequel nous sommes. Déjà, nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. Les virus nous le rappellent, mais aussi nous voyons bien que ces vivants avec qui nous cohabitons, il nous faut cesser de les objectiver, de les rendre si stupides et fonctionnels. Il nous faut arrêter nos stupidités. En 1974, Flusser rencontre l'artiste paranaturaliste Louis Beck. Invité un été à Cabrières d'Aigues, près de Pertuis, par Louis, Willem et Edith Flusser s'installent dans la région. Robion est entouré de petits monts situés dans le Vaucluse. C'est dans un paysage provençal aux odeurs de cerisier, d'olivier et de lavande que naît la fable du vampire Otis. Dans les après-midi de discussions et de dialogues auxquels Edith prenait part elle aussi, un monstre octopodal s'invite à la table. Il devint un modèle pour une philosophie de l'altérité. Mais aussi un geste scientifique. De la généalogie à l'intuition, en passant par la phénoménologie, Flusser s'attache à étudier le vampire comme on pourrait s'attacher à étudier les vivants avec qui nous cohabitons. Il faut dire que nous sommes dans un moment particulier et spécifiquement en France. Une école de la biologie moléculaire commence son existence. André Wolff, Jacques Monod et François Jacob obtiennent le prix Nobel de médecine en 1965. Les trois chercheurs de l'Institut Pasteur ont découvert à travers le modèle de l'opéron que nos gènes ne sont pas exprimés de manière constante au fil du temps, mais qu'ils sont régulés très finement pour répondre aux besoins de notre organisme. Derrière cette explication, Jacob écrira une histoire de la biologie sous le terme de programme, à l'image du programme informatique. François Jacob note ainsi que dans le programme sont contenues des opérations qui conduisent chaque individu de la jeunesse à la mort. Tout n'est pas fixé avec rigidité par le programme génétique, et bien souvent, celui-ci ne fait qu'établir les limites à l'action du milieu. Plus précisément, la notion de programme de l'hérédité est établie par l'école de la biologie moléculaire pour rendre compte d'une histoire de l'évolution, inscrite au cœur de chaque cellule, permettant à chaque entité vivante de transmettre des informations à la génération suivante. S'opposant aux explications des mythes pour expliquer les phénomènes du vivant, Jacob décrit l'hérédité en termes d'informations, de messages et de codes. Pour autant, l'idée de programme elle-même est problématique. Un programme, c'est un système où toute virtualité inhérente se réalise par hasard, mais nécessairement. Il est un jeu, nous dit Flusser. Le problème des programmes, c'est qu'ils font de nous des fonctionnaires. Ils nous placent dans la déresponsabilisation de nos actes. Ils enlèvent le sens de notre travail pour faire de nous des rouages d'une machine plus vaste. Pour Flusser, le programme occidental contient en lui-même l'extermination de la vie. Auschwitz. Flusser souligne la condition contemporaine, régie par les programmes, l'absurdité. Nous ne devons ni anthropomorphiser ni objectiver les appareils, mais les atteindre dans leur concrétude idiote, celle d'un fonctionnement programmé par le hasard et pour le hasard, dans leur absurdité. Nous devons apprendre à accepter l'absurde si nous voulons nous libérer du fonctionnement. La liberté est concevable, désormais, comme jeu absurde avec des appareils absurdes, comme jeu avec les programmes. Accepter que la politique est un jeu absurde, accepter que l'existence est un jeu absurde, c'est à ce prix douloureux que nous pourrons un jour donner un sens à nos jeux. Ou accepter la leçon le plus tôt possible, ou devenir des robots, devenir des joueurs ou des pions, des pièces du jeu ou des meneurs de jeu. Le programme est chez Flusser inséparable d'une pensée sur le vivant. On peut y trouver des traces dans le vampire Ototis lui-même, dont la fable est écrite comme un appareil de pensée. La nature, en tant qu'élément de l'imaginaire humain, peut alors être reconfigurée. L'idée de nature est pour Flusser un mensonge. En effet, dans un ouvrage qu'il intitule « Naturalmente », littéralement « la nature ment », il évoque cette idée. Recoder la nature, ne pas la voir comme une ressource, mais un milieu. Entre les deux amis, Louis et Willem, naît un monstre octentaculaire, le vampire Ototis infernalis. Dans les archives, un entretien avec Anita Jory m'apprend l'histoire de ce livre. D'abord écrit en français, l'ouvrage sera édité pour la première fois en allemand avec une quinzaine d'illustrations de Louis Beck. Comme Flusser traduisait lui-même ses textes, il réécrivait en réalité tout l'ouvrage, de sorte qu'il faudrait lire tous les vampires Ototis pour comprendre toutes les facettes de sa pensée. Puis, Flusser retravaille le texte en portugais et quelques passages en anglais. Ces textes restèrent dans les archives jusqu'à Rodrigo Maltés Novaes s'attelle à la traduction du dernier vampire Ototis, écrit dans les dernières années de sa vie, et maintenant disponible aux éditions Atropos. Tel un animal vivant, le vampire Ototis infernalis, en tant qu'ouvrage, connaît chez Flusser plusieurs stades de mutation. Dans sa version la plus proche de nous, dans l'évolution taxonomique du vampire, l'organisme biologique, animal, devient lui-même un appareil.